Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant tout de suite. C'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La mobilisation des policiers ne faiblit pas. Nouvelle manifestation hier dans plusieurs villes de France. Les syndicats vont être reçus tout à l'heure par Bernard Cazeneuve. François Hollande, à l'instant, réaffirme son soutien aux policiers et appelle au dialogue, suivi du conflit avec Antoine Marette. À Amiens, c'est l'ouverture du procès en appel de 8 anciens salariés de l'usine Goodyear, condamnés à 9 mois de prison ferme en première instance. À l'extérieur, plusieurs milliers de personnes sont rassemblées pour condamner, je cite, la criminalisation de l'action syndicale. On retrouvera sur place Manuel Ruffez. Un rapport parlementaire plaide pour un salaire minimum dans chaque pays membre de l'Union européenne. Il avance des pistes pour, je cite encore, une convergence en douceur afin d'éviter la mise en concurrence entre salariés. Explication d'Anne-Lorchouin. La bataille de Mossoul, elle a donc commencé. Des dizaines de milliers de combattants irakiens sont mobilisés pour tenter de reprendre la ville au groupe État islamique. Ils gagnent du terrain vers l'Est. Selon Bagdad, le groupe dispose encore de 5000 à 6000 combattants qui sont retranchés dans la ville. Correspondance sur place de Philippe Randé. Et puis le troisième et dernier débat aux États-Unis entre Hillary Clinton et Donald Trump. Nous sommes à 20 jours de la présidentielle. On retrouvera à l'université du Nevada à Las Vegas Frédéric Carbone, l'invité de l'abécédaire de la campagne, à la lettre S comme sécurité, Frédéric Pechnard, directeur général du Parti des Républicains. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesberg.
Style critique de nos formes de vie, c'est le titre de l'essai de Marielle Masset, notre invitée. Mais qu'est-ce que le style? Comment caractérise-t-il nos existences? On en parle avec elle à partir de 2055.
Les syndicats de police vont donc être reçus tout à l'heure par Bernard Cazeneuve. Hier, il y a eu deux nouvelles manifestations de policiers dans plusieurs villes de France pour demander à la fois plus de moyens et de fermeté. Le mouvement survient, rappelons-le, 10 jours après une attaque au cocktail Molotov contre 2 patrouilles de police. Ça s'était passé à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Attaque qui a grièvement blessé 2 policiers, dont l'un d'ailleurs est toujours hospitalisé. Brandissant des pancartes où était inscrit « Solidarité avec nos collègues », plusieurs centaines de policiers étaient rassemblés hier soir à Évry, où une réunion se tenait entre le directeur général de la police nationale Jean-Marc Falcon et les chefs de la brigade anticriminalité du département. La voiture d'ailleurs de M. Falcon, qui avait dénoncé hier le comportement inacceptable des policiers, cette voiture a quitté les lieux sous les huées, sous les appels à la démission. Écoutez l'un des manifestants qui dit sa colère au micro de Jules Dekis.
Il n'y a aucun respect là. Là partout les jeunes dans le quartier parlent de respect. Là il n'y a aucun respect. Nous on était respectueux. On l'a hué, il a été sifflé, il a eu ce qu'il méritait. D'accord. On soutient nos collègues parce qu'ils ont eu des paroles, ils ont des pensées, même la façon de penser. C'est pas des policiers ces mecs-là. Ils savent pas ce que c'est que le métier de policier. Là, il a aucun respect. Il n'y en a pas un qui est sorti, il n'y en a pas un qui s'est arrêté. On a des collègues qui ont cramé, d'accord. L'autre fois à Paris, sur le périph', il y a des collègues qui sont fait tuer. Il n'y a aucune réponse pénale, il n'y a rien. Là, la seule réponse pour les collègues qui sont montés à Paris, c'est sanction. Voilà. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. La seule réponse, c'est sanction.
Et s'il y a des sanctions, qu'est-ce qui va se passer?
S'il y a sanctions, ça sera toute la France qui sera comme ça, et on lâchera pas. Voilà. S'il n'y a pas de changement, on bougera pas. Parce que là, on n'en peut plus.
Un policier donc manifestant hier à Évry avec Jules Dekis. Le mouvement a été lancé hors de tout cadre syndical. Apparemment, ces manifestations semblent spontanées. Il vient d'être quand même rejoint par Force Ouvrière qui appelle à une marche de la colère policière et citoyenne le 26 octobre à Paris et en province. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Il est intéressant de rappeler comment ce mouvement est né, donc 10 jours après l'attaque de Viry-Châtillon.
Eh bien, effectivement, au départ, il y a cette attaque menée à Viry-Châtillon le 8 octobre dernier, un véritable guet-apens mené par une dizaine de personnes contre les policiers. Ils avaient brisé les vitres de leurs deux véhicules avant de les incendier, de tenter d'empêcher les forces de l'ordre de sortir. 4 policiers avaient été blessés, dont 2 grièvement. Ce guet-apens n'est malheureusement pas un cas isolé. La semaine dernière, des forces de l'ordre avaient également été prises à partie dans un quartier sensible du Val-Fouret à Mantes-la-Jolie. Et puis surtout, on se souvient de ce qui s'était passé en marge d'une manifestation de policiers en juin dernier, place de la République, de ces images, surtout celles d'un véhicule de police enflammé et d'un homme tentant d'empêcher le policier de quitter son véhicule. La violence contre les forces de l'ordre n'est pas quelque chose de nouveau, mais désormais, il y a parfois la volonté de tuer. Et puis, il y a le contexte. Les policiers sont extrêmement sollicités avec l'état d'urgence. Et rappelons-nous aussi l'assassinat en juin dernier à Magnanville d'un couple. Lui était policier, elle était secrétaire dans un commissariat. Il y a donc chez les forces de l'ordre un ras-le-bol.
Les syndicats entrent dans le jeu apparemment. Le ministre va les recevoir, je l'ai dit. Comment peut évoluer maintenant ce mouvement?
Eh bien, les choses vont dépendre en partie de la réponse de la hiérarchie. Pour l'instant, elle semble hésiter entre fermeté et compréhension. Fermeté du directeur général de la police nationale avec l'enquête de la police des polices sur les manquements individuels aux règles statutaires lors de la manifestation non autorisée, notamment sur les Champs-Élysées. On peut imaginer que d'éventuelles sanctions ne seraient pas de nature à calmer les esprits, mais les forces de l'ordre peuvent compter sur un allié de poids, Manuel Valls, qui a promis de poursuivre sans relâche ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et à l'instant, vous le disiez, François Hollande apporte son soutien aux policiers. Puis ce soir, étape importante, les représentants de deux syndicats, Alliance et UNSA Police, vont être reçus par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Merci beaucoup. Antoine Maret, nous sommes donc à 6 mois de la présidentielle et la colère des policiers prend donc naturellement un tour politique. Les policiers qui ont reçu notamment le soutien d'élus Les Républicains comme Éric Ciotti ou du Front National, dont la présidente Marine Le Pen. Invité sur France 2 ce matin, Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite et du centre, exprime aussi sa compréhension en ces termes.
Je comprends parfaitement l'état d'esprit de nos policiers aujourd'hui, car il faut bien voir la situation dans laquelle ils se trouvent. Assurer l'ordre public et la sécurité, ça suppose d'abord une volonté politique et une autorité respectée. Or, aujourd'hui, l'autorité de l'État n'est plus respectée. Et puis ensuite, il y a un problème de moyens. Nos policiers sont soumis à un rythme de travail qui est extraordinairement soutenu. Il faut attendre la fin du quinquennat pour qu'on se rende compte qu'il aurait fallu recruter des policiers supplémentaires. C'est bien beau de dire qu'ils ne devraient pas. Encore faut-il comprendre pourquoi ils se comportent comme cela et leur apporter des solutions. Et la solution, c'est une forte volonté politique de les soutenir pour qu'il n'y ait pas de zone de non-droit dans notre pays. Et c'est de leur donner des moyens.
Alain Juppé donc sur France 2. Bonjour Frédéric Pechenard.
Bonjour.
Vous êtes donc directeur général du Parti des Républicains, mais aussi vice-président de la région Île-de-France, en charge des questions de sécurité. Vous allez être tout à l'heure l'invité de notre abécédaire de campagne, mais évidemment un mot de réaction tout de suite après ce malaise chez les policiers dont on vient de parler. Finalement, est-ce qu'Alain Juppé n'est pas plus crédible sur ce point que Nicolas Sarkozy, que vous soutenez, lequel avait, dit-on, supprimé des effectifs dans la police ?
Je pense que chacun se rappelle quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, pour parler de cette période-là, il a fait énormément pour la police. Il n'y avait pas ce malaise qui existait aujourd'hui. La police était commandée, était dirigée, était soutenue. Et je crois que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui aux forces de l'ordre, c'est l'impression qu'ils aient un patron à leur tête, qui les défende, qui les soutienne, qui les encourage. Je pense que les années Taubira, pour faire simple, les 4 dernières années où systématiquement on a privilégié la parole du délinquant par rapport à la parole du policier, en supprimant la construction de places de prison, en supprimant les peines planchers, en créant cette contrainte pénale qui signifie en gros que quand vous êtes condamné, ben vous n'allez pas en prison. Finalement, ça a été des signaux extrêmement positif pour les délinquants et extrêmement négatif pour les policiers. Et je crois que c'est tout ça qui se paye maintenant.
Frédéric Pechenard, merci beaucoup. On remet tout ça en débat tout à l'heure dans notre séquence l'abécédaire de la campagne avec Stéphane Robert. Ils avaient séquestré pendant 30 heures environ 2 cadres de l'entreprise. C'est le procès en appel de 8 anciens salariés de l'usine Goodyear qui avait été condamné donc à 9 mois de prison ferme en première instance qui s'est ouvert ce matin à Amiens. Audience a débuté à peu après 9 heures. La salle est quasiment pleine et à l'extérieur 4000 personnes selon la CGT rassemblées pour condamner, je cite, la criminalisation de l'action syndicale. Dans quel état d'esprit se trouvent les manifestants, Manuel Ruffez ?
L'état d'esprit, il est combatif, très combatif même. Depuis ce matin, alors que se déroule au même moment l'audience en appel des ex-salariés de Goodyear, et bien ici, dans ce parc Saint-Pierre d'Amiens, l'heure est au soutien inconditionnel et à la mobilisation. Les militants syndicaux de la CGT en très grande majorité, mais aussi du syndicat Sud, sont venus de toute la France pour témoigner leur solidarité et dénoncer les atteintes aux libertés syndicales qui, disent-ils, n'ont jamais été à ce niveau aussi élevé. Un syndicaliste CGT venu de Nice disait tout à l'heure « Il faut arrêter le massacre contre les représentants syndicaux ». Et sur la scène, montez là pour l'occasion, les témoignages se succèdent pour raconter pour les uns des condamnations, pour les autres des altercations avec les forces de l'ordre. On ne fait pourtant que défendre nos emplois, disent ces militants. Des prises de parole politiques sont également attendues. Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud notamment. On attend surtout les ex-salariés de Goodyear qui doivent venir à la pause faire un point sur l'audience.
Voilà, procès qui intervient, rappelons-le, 3 semaines après celui de plusieurs salariés d'Air France qui avaient été jugés pour l'épisode de la chemise arrachée d'un cadre de la compagnie aérienne. Le délibéré sera rendu le 30 novembre prochain. François Hollande a fait allusion hier soir à l'élection présidentielle de 2017. Il était à la Maison de l'Amérique latine où il avait fêté son succès de la primaire du PS. C'était en 2011. À chaque fois qu'il y a une victoire à célébrer, c'est toujours ici que ça se produit, a dit le chef de l'État. Des propos qui ont été rapprochés des doutes exprimés par nombre d'élus socialistes quant à la capacité du président à briguer ce second mandat, apparemment dont il espère pouvoir le briguer, en particulier après la publication récente de ce livre de confidences aux journalistes. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour.
Alors même autour du président, il y a ce matin plus grand monde pour y croire.
En tout cas, le symbole de cela, c'est Jean-Marc Ayrault qui s'en prend ouvertement à ce livre intitulé « Un président ne devrait pas dire ça ». Tout est dans le titre, dit-il, le ministre des Affaires étrangères. Un président ne devrait pas dire ça, effectivement. Il faut dire que François Hollande parle de Jean-Marc Ayrault dans cet ouvrage, pas en termes forcément très flatteurs. Il est tellement loyal qu'il est inaudible. De même, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, a regretté les épanchements du président. Lui-même est qualifié de personnage sans charisme par François Hollande. Enfin, d'après le Canard enchaîné de ce matin, Najat Vallaud-Belkacem a très mal pris une petite phrase la concernant. « Ce n'est pas une intellectuelle », dit-elle François Hollande. Précision, c'est au cours d'un passage beaucoup plus positif sur la ministre de l'Éducation où il loue notamment son talent politique. Résultat, certains commencent à se poser des questions. François Hollande sera-t-il en situation de se présenter ? Ce livre est un suicide politique, aurait estimé Manuel Valls, selon le Canard enchaîné de ce matin. Il faut maintenant éviter que ce suicide personnel ne devienne un suicide collectif. Fin de citation. Est-ce une manière pour le Premier ministre de se placer lui-même en orbite ? Ces jours-ci, Manuel Valls a donné à ses déplacements une nouvelle tonalité. « Je peux représenter la France », disait-il au Québec il y a quelques jours. Lundi soir, sur la laïcité, c'est également un discours très rassembleur qu'a tenu Manuel Valls à Évry, pourtant d'habitude assez clivant sur ces questions. Il a évoqué l'islam, une part indissociable de nous-mêmes et de notre culture, je cite. Ségolène Royal, elle, a aussi semblé s'émanciper en appelant à arrêter les frais sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Chacun semble donc tenter de jouer sa partition au sein même des proches de François Hollande. En son temps, François Mitterrand disait « Donnez-moi 10 hommes de confiance et je prends le pouvoir ». Il n'est pas sûr que François Hollande dispose demain de ces 10 hommes pour le conserver.
Voilà, et la nature a hors du vide aussi. Frédéric Saïs, merci beaucoup. Le thème pourrait en tout cas alimenter une éventuelle candidature Hollande. Thème du développement de l'Europe sociale. Un rapport de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale plaide ce matin pour un salaire minimum dans chaque pays membre de l'Union européenne. Il avance des pistes pour une convergence en douceur, c'est l'expression utilisée, afin d'éviter la mise en concurrence entre salariés, mais aussi sans déstabiliser les marchés. Pour les auteurs du rapport, l'absence de compétences juridiques de l'Union pour imposer ce salaire minimum n'est pas vraiment un problème puisque la volonté politique suffirait, encore faut-il qu'elle soit manifeste, cette volonté, Anne-Laure Chouin.
En tout cas, l'initiative tombe à point nommé au moment où les oppositions anti-CETA donnent l'image d'une commission européenne plus préoccupée de négocier des accords commerciaux que de construire l'Europe sociale. Ce rapport a donc été commandé par le gouvernement au député socialiste Philippe Cordery, le gouvernement ayant lui-même été mandaté par la Commission européenne qui prévoit de mettre en place début 2017 un socle européen des droits sociaux, une sorte de charte non contraignante, qui serait une boussole indiquant la direction à suivre pour arriver à une convergence sociale européenne. La contribution de la France à ce socle sera donc le salaire minimum européen. Alors, entendons-nous bien, pas un salaire minimal unique dans tous les pays, non, impossible, jugent les auteurs du rapport, étant donné les différences en termes de mode de fixation des salaires et de disparité de revenus. Par ailleurs, on ne peut pas demander à la Bulgarie, dont le salaire minimal est de 215 euros, de se mettre au niveau du Luxembourg, où celui ici avoisine les 1900 euros. L'idée, c'est plutôt un salaire minimal qui soit partout égal à un certain pourcentage du salaire médian de 40 à 60%, un outil à la fois de lutte contre la pauvreté et de réduction du dumping salarial. Cette mesure pourrait se développer sans changer les traités, estime le rapporteur, en l'inscrivant dans ce fameux socle des droits sociaux et en faisant un point du semestre européen. Le semestre européen, qu'est-ce que c'est ? Une sorte de plan annuel dans lequel la Commission analyse les politiques économiques des États membres et soumet des recommandations. Philippe Cordery constate que quand ce semestre avait recommandé à la Grèce de baisser ses salaires, cette dernière s'était exécutée. Pourquoi les États ne s'exécuteraient-ils pas si le même semestre leur demande de les augmenter, ses salaires ? L'argument est valable et peut-être aussi faussement naïf.
Voilà, effectivement, pourquoi c'est, parfois ça baisse, mais c'est pas forcément pour autant pour cela que cela peut aussi monter. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans le sens dans lequel on prend la question des salaires. Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. On dit un mot pour terminer cette partie journal de la bataille de Mossoul, puisqu'il y a des dizaines de milliers de combattants irakiens qui sont maintenant mobilisés pour tenter de reprendre la ville au groupe État islamique. Ils gagnent du terrain vers l'Est. Le groupe islamique disposerait encore de quelques 5000 combattants qui seraient retranchés donc dans la ville. Les forces fédérales sont entrées dans plusieurs quartiers d'une localité qui s'appelle Karakosh, dans les environs de laquelle, Philippe Randet, vous vous trouvez pour Radio France. Bonjour.
Bonjour, oui, au milieu d'une poussière très épaisse qui colle au treillis, les blindés kurdes et les pelleuses sont petit à petit en train de construire le nouveau front. Nous avons pu longer cette grande plaine désertique parsemée de petits bivouacs où les combattants kurdes s'installent face aux différents villages encore tenus par le groupe État islamique. Mossoul est à 15 km, Karakosh, la ville chrétienne, est beaucoup plus proche, hein, vous l'avez dit, mais pour l'instant, la grande offensive vers Karakosh n'a pas commencé. Alors les soldats kurdes, lance-roquettes et kalachnikov à la main, protègent leur nouveau territoire et attendent l'armée irakienne pour avancer. Une attente teintée d'une bonne dose d'impatience, comme nous le confie ce général kurde.
L'armée irakienne est en mouvement depuis deux jours, mais ils n'ont pas fait la moitié de ce qu'on a fait nous. Ils arrivent, ils sont près de nous, mais ils n'avancent plus depuis hier. Les forces irakiennes sont derrière la colline et on entend les combats, les tirs et les tanks.
En attendant la grande offensive, les combats à l'arme lourde se poursuivent ici sur le front. Nous avons encore entendu il y a quelques minutes plusieurs explosions et plusieurs tirs de mitrailleuses. Le groupe État islamique est donc toujours présent autour de nous et qui compte bien protéger ses ultimes villages, derniers remparts vers la ville de Mossoul.
Philippe Randet, merci beaucoup. Vous étiez donc en direct d'Irak autour de cette ville de Mossoul. Troisième et dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Nous sommes à 20 jours de la présidentielle. Ce sera donc dans la nuit à l'université du Nevada à Las Vegas. Frédéric Carbone.
Sur le tapis vert des casinos de Las Vegas, la victoire de Donald Trump à la présidentielle, c'est l'équivalent du casse du siècle. Un des supporters de la première heure du candidat républicain reconnaît même qu'il faudrait désormais un miracle. Et le débat de la nuit prochaine ne suffira pas pour changer la donne, mais il constitue bien la dernière chance pour infléchir la tendance. Pour cela, il faut que Donald Trump réussisse là où il a toujours échoué, mettre Hillary Clinton en difficulté, et pas seulement par une pression physique ou par des attaques sur les frasques sexuelles de son mari. Les fuites de Wikileaks offrent une réelle opportunité. Ses discours devant les banquiers illustrent en effet le décalage entre les propos privés et les propos de campagne. Il faudra pour cela plus d'habileté que lors des précédents débats, plus de constance dans la confrontation et également une connaissance plus aiguë des dossiers. Sinon, Donald Trump se contentera de s'offrir une nouvelle tribune pour dénoncer une élection truquée et du plaisir de faire venir au débat des invités dérangeants. Le demi-frère néo-Kenya de Barack Obama sera ainsi dans la salle et Hillary Clinton aura sous les yeux les familles de soldats tués à Benghazi qu'il accuse de les avoir abandonnés.
Midi 48, l'abécédaire de la campagne avec Frédéric Pechnard à la lettre S comme sécurité. Question de Stéphane Robert.
Monsieur Pechnard, bonjour. Vous êtes donc vice-président de la région Île-de-France en charge de la sécurité. Vous êtes directeur général du parti qui s'appelle Les Républicains. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous y adjoindriez sécurité ou plutôt comment est-ce que vous articuleriez cette notion de sécurité avec ces trois promesses républicaines, liberté, égalité, fraternité?
Je pense tout simplement que la sécurité permet d'avoir la liberté, l'égalité et la fraternité. Dans un monde où il n'y a pas de sécurité, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas tendre la main aux autres. Donc la sécurité est une condition absolument indispensable à, finalement, l'exercice de toutes les libertés publiques dans une démocratie.
On va revenir peut-être sur ce qui se passe un tout petit peu avec les manifestations de policiers. On voit bien ça échappe un petit peu au contrôle, puisque ça échappe aux syndicats. On a vu le directeur général de la police nationale, ce que vous avez été sous l'ère Nicolas Sarkozy, siffler et à qui on demandait de démissionner. Comment est-ce que vous comprenez ça, qu'on sorte un petit peu presque du cadre légal là?
Moi, vous savez, j'ai été policier pendant 30 ans. Donc c'est des phénomènes que je connais bien. Je crois que les policiers ont besoin de respect et besoin de soutien. Et de soutien pas tellement dans les mots, mais de soutien sur le terrain. Voilà. Alors, après, les policiers, ils ont des droits. Les policiers n'ont pas le droit de faire grève, par exemple, mais ils ont le droit de manifester. Bien sûr, de manière un petit peu encadrée. Mais
la nuit quand même.
Je pense.
Ah bah, en voiture sur les Champs-Élysées, sans prévenir personne.
C'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est de savoir pourquoi ils en sont arrivés là. Voilà. Pourquoi est-ce que des policiers qui sont des hommes, des femmes d'ordre, qui généralement font bien leur boulot, qui généralement ont un sens aigu de la fonction publique et du sens de l'État, en arrivent hors cadre syndical à ce type d'action ou débordement? Ben, la réponse, elle est recherchée dans la politique du gouvernement socialiste.
Est-ce que vous posez la question, Monsieur Pechenard, pour les ouvriers de Goodyear, par exemple, qui aussi parfois débordent? Du cadre légal.
Mais c'est la même chose.
Ah bon,
c'est la même chose. Quand vous poussez des gens à bout d'une façon ou d'une autre par une politique, eh bien, on ne peut pas s'étonner qu'ils réagissent d'une manière parfois un petit peu disproportionnée ou violente.
Et alors, comment on y répond? Est-ce que la seule réponse sécuritaire de sanction est possible ou est la seule acceptable? Ou alors, est-ce qu'il faut avoir une certaine tolérance et comprendre ça de façon
différente? Je pense que la meilleure façon d'agir, c'est de faire en sorte, bien sûr, que ça n'arrive pas. On a tous compris au moment de l'agression de criminels de Viry-Châtillon que là il y avait quelque chose qui avait basculé. Vous savez, quand vous avez un terrain qui est déjà très compliqué, il est compliqué parce que pendant 4 ans, Madame Taubira a préféré les délinquants aux policiers. C'est un petit peu simpliste ce que je dis, mais c'est comme ça que les policiers ont pu le ressentir. Quand depuis 18 mois, avec l'état d'urgence, les policiers ont été surexploités en termes de temps de travail, à juste titre d'ailleurs, mais parfois de manière maladroite. Par exemple, est-ce qu'on avait besoin d'avoir autant de gardes statiques qui sont des temps de travail qui épuisent les policiers et qui ne servent pas à grand-chose? À Paris, lors du dernier quinquennat de Nicolas Sarkozy, on avait supprimé toutes les gardes statiques et remplacé par des gardes mobiles, si vous voulez. D'ailleurs, on est en train de revenir là-dessus. Et c'est plus efficace, c'est beaucoup moins consommateur en effectif et c'est beaucoup plus intéressant pour les policiers. Et puis, vous avez les forces de sécurité, les forces mobiles de sécurité, gendarmes ou police, qui sont aussi surexploités. La fan zone de Paris, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir cette fan zone à cet endroit-là? Il y a 8 compagnies républicaines de sécurité qui ont été présents tous les jours pendant un mois. Mais pendant ce temps-là, ils n'ont pas pris de congé, ils ne sont pas reposés. À Calais, où on a construit ce camp de migrants qu'on va finir par démanteler, toutes les nuits, il y a entre 10 et 15 unités de forces mobiles qui se font caillasser et qui se battent. C'est tout ce climat-là qui fait que tout d'un coup, il se passe Viry-Châtillon, et là, ça part. Viry-Châtillon, c'est une erreur majeure de communication du ministre de l'Intérieur qui parle de sauvageons. Il s'agit d'organisations criminelles. Ce sont des trafiquants de drogue qui ne veulent pas que les policiers viennent sur leur territoire. Les policiers sont en statique, ils n'essayent d'interpeller personne, et il y a une agression qui a pour but de tuer. On casse les vitres et on lance les cocktails Molotov à l'intérieur. D'ailleurs, il y a toujours un policier qui est entre la vie et la mort.
Est-ce qu'on ne redécouvre pas un peu l'eau chaude, à savoir qu'il y a des quartiers difficiles, où il se passe des choses, où la sécurité est difficile à appliquer? Il y avait les émeutes en 2005, on les a connues pendant 3 semaines, sous l'ère Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, pour le coup. On sait que ça a été une des raisons de ces émeutes, était la protection du trafic de drogue. Là, les policiers à Viry-Châtillon, c'était pour surveiller une caméra. Et on a ce matin, dans le journal Le Figaro, Pierre Bédier, président du département des Yvelines, qui explique que régulièrement, il y a des jeunes qui viennent détruire les éclairages pour pouvoir s'adonner à des trafics illicites. Alors, est-ce que c'est réellement nouveau et est-ce que c'est pas un peu facile de, à chaque fois, cibler un gouvernement qui n'aurait pas fait les choses, sachant que Nicolas Sarkozy, entre 2016 et 2012, a supprimé 13 000 postes de police et de gendarmerie?
Alors, c'est beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre. D'abord, la première chose, c'est bien sûr des émeutes et des quartiers difficiles, il y en a toujours eu. Un mot, la situation sécuritaire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la situation sécuritaire du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je vous renvoie à l'enquête de victimation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. C'est paru en 2013 et c'est un observatoire qui est placé sous l'autorité du Premier ministre. Donc c'est pas quelque chose qui nous est forcément favorable. Eh bien, cet observatoire et cette enquête de victimation disent clairement que le sentiment d'insécurité et l'insécurité ont reculé, que la délinquance a reculé entre 2007 et 2012 pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les émeutes de 2005, vous en parlez, elles ont été difficiles, violentes, ça a duré 3 semaines, mais elles ont été parfaitement gérées avec un ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy à l'époque, qui était à la tête de ces hommes, qui allaient sur le terrain tous les soirs. Il n'y a pas eu de mort pendant ces émeutes. La police a repris la main sur les quartiers. Il n'y a pas eu d'ailleurs non plus de manifestation de policiers. Les policiers ne se sentaient pas délaissés. Les policiers se sentaient soutenus et commandés. Et c'est là une grande différence avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis enfin, la différence majeure, c'est que des policiers blessés et tués dans leur fonction, il y en a malheureusement toujours eu. Une augmentation quand même très importante. Sur le premier semestre 2016, le nombre de policiers blessés a augmenté de 30% par rapport au premier semestre 2015. Donc on voit bien qu'il y a une violence qui s'est accrue contre les forces de l'ordre. Et cette violence, elle est encore plus violente. Ce que je veux dire, c'est que quand on rentrait dans des cités, moi j'étais à la brigade des stupes, j'étais à la brigade anti-gang, pour interpeller des gens, là, il risquait d'y avoir une confrontation. Et ça pouvait arriver. Là, c'est différent. Là, vous avez des policiers qui sont dehors, qui sont en statique, qui n'essayent pas d'interpeller et qui font l'objet d'une agression comme ciblée et d'une agression pour tuer. Donc les choses sont un petit peu différentes et pour tout dire très inquiétantes.
Il explique sans doute ce malaise d'aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Pechenard d'avoir accepté notre invitation. La météo en 6 mots, averse au nord, soleil au sud, des températures en baisse de 10 à 22 degrés quand même du nord au sud. Édition réalisée avec Brice Garcia, prochain journal 18h, Anne Fauquemberg.